Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hello, je suis Mélanie Wanga et j'ai travaillé sur l'épisode d'aujourd'hui avec la journaliste de Binge Audio, Diane Jean.
Salut Diane.
Salut Mélanie.
Un jour, Diane m'a demandé si je connaissais le Bumidom.
Le Bumi quoi ?
Alors le Bumidom, c'est le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Une institution active entre 1963 et 1981 qui a profondément changé le visage démographique de notre pays, en incitant notamment les migrations des populations des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine.
Le Bumidom fait partie des chapitres méconnus de notre histoire, qui à l'école nous est souvent présentée comme prospère, glorieuse. Pourtant, on le sait, la France n'a pas toujours été exemplaire, loin de là, et ses passages, plus sombres et passés sous silence, sont évidemment plus difficiles à entendre. Avec Mélanie, nous avons souhaité mettre un peu de lumière sur cette zone d'ombre qu'est le Bumidom, car, comme disait le poète, il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Pour ma part, j'ai appris l'existence du Bumidom il y a très peu de temps grâce à l'une de mes amies, Mélissa. Elle est originaire de Guadeloupe et depuis son adolescence, elle cherche à connaître les raisons qui ont poussé sa famille à quitter son île natale. Un jour, Mélissa m'a parlé d'une bande dessinée, Pays à nous, écrite par Jessica Oublier et illustrée par Marie-Ange Rousseau. Cette enquête, parue en 2018, raconte sur 200 pages le Bumidom et son impact sur les populations d'outre-mer.
Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler du Bumidom, j'étais déjà adulte. Et ce sont des amis antillais qui m'en ont parlé. Donc pas l'école, ni l'université. Pourtant, le Bumidom, c'est une agence d'État qui a organisé l'une des migrations intérieures les plus importantes que la France ait connues. Un demi-siècle plus tard, cette politique continue d'avoir des conséquences sur nos territoires et sur nos vies. Alors comment le gouvernement français s'est-il retrouvé à envoyer des milliers de personnes d'outre-mer en métropole en leur promettant un travail et une vie meilleure sans forcément pouvoir tenir ses promesses ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'empire colonial français se délite. Et en 1962, l'Algérie devient indépendante. Au même moment, il y a les dom-tom. D'ailleurs, petite parenthèse, si on utilise encore l'expression dom-tom aujourd'hui, c'est un abus de langage. La notion de territoire d'outre-mer a disparu en 2003 pour être remplacée par celle de collectivité d'outre-mer, les dom-com, donc.
Revenons à nos moutons. Du côté de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une envie d'indépendance bourdonne. Sur ces trois îles, qui viennent tout juste de devenir des départements français, des émeutes éclatent. Pour désamorcer cette colère sociale, mais aussi une natalité dite galopante et un chômage de grande ampleur, le gouvernement de Pompidou décide d'organiser l'émigration de domiens et de domiennes vers la métropole. Est alors mis en place une politique qui aboutira à la création de l'agence du Bumidom en 1963. Sous l'impulsion de qui ? Michel Debré, alors député de La Réunion. Et pour rappel, Michel Debré, c'est l'un de nos anciens premiers ministres et l'auteur de notre Constitution. Pour comprendre cette politique migratoire qu'est le Bumidom et les conséquences qu'elle implique aujourd'hui, nous avons décidé de passer un coup de fil à Jessica Oublier, autrice de la BD Pays à nous. On lui a demandé comment elle avait entendu parler du Bumidom et ce qui lui avait donné envie de mener cette enquête.
Alors, j'habitais depuis presque 6 ans sur le continent africain pour le travail. Et en rentrant, j'ai découvert, ma famille m'a informé que mon grand-père maternelle, guadeloupéen, avait un cancer. Et à ce moment-là, c'est vrai que moi qui suis née à Paris et qui ai eu ce détour aussi par l'Afrique, je me suis rendu compte que je ne connaissais rien ni de lui, ni de notre histoire familiale, ou très peu. Et encore moins sur l'histoire des Antilles. Donc je me suis rendue en Guadeloupe pendant un mois pour pouvoir essayer de comprendre notamment la période particulière durant laquelle il avait vécu en France et qui explique notamment le fait que mes sœurs et moi et une grande partie de mes cousins et cousines sommes nés en France métropolitaine. Au début de notre entretien, on commence par sa petite enfance, où il est né, comment il a grandi, ce qu'il faisait, qui étaient ses amis, etc. Et puis très vite, quand on est arrivé à la partie relative donc à son âge adulte et à son départ, je me suis permis d'avancer que j'ai lu que des gens partaient à la même époque que toi avec ce qu'on appelait le Bumidome. C'est eux qui ont payé ton billet d'avion. Et là, tout de suite, il a eu un visage plein de colère, plein de sévérité. Il m'a laissé entendre qu'il n'était pas parti avec eux. Il m'a dit exactement, moi, j'ai rien eu à faire avec ces gens-là. Moi, je suis partie, j'ai payé mon billet d'avion tout seul.
La colère est un sentiment qui revient quasi systématiquement dans les témoignages des personnes parties des DOM vers l'Hexagone avec ou pendant le Bumidome. Il faut dire que l'écart entre les promesses du gouvernement en matière de logement, de formation et d'emploi et la réalité de l'accueil en métropole en a choqué plus d'un. Le centre d'accueil de Crouy-sur-Ourcq, en région parisienne, apprenait par exemple aux femmes les tâches ménagères, l'épluchage des légumes, la mise du couvert ou encore la préparation des repas. Les emplois confiés aux arrivants du Bumidome, à qui on avait promis par exemple pour les femmes des formations d'infirmières ou d'institutrices, sont en réalité des emplois non qualifiés.
C'était généralement les emplois les plus bas de sans qualification, donc de la fonction publique ou dans le domaine de l'entreprise, les ouvriers non spécialisés qui travaillaient sur des lignes, qui posaient des écrous, des tireurs de câbles à France Télécom. C'était vraiment les petits métiers en fait. Donc avec un niveau de pénibilité parfois assez important ou qui ne sollicitait pas de compétences particulières, par exemple fille de salle à l'hôpital, hein, c'était les personnes qui donnaient à manger aux patients. Donc finalement, le Bumidome, notamment quand on était une femme, donc qui n'avait pas de qualification préalable, avait un vrai projet professionnel pour vous. C'est-à-dire, soit il vous envoyait donc à l'hôpital et donc là, vous embrassiez une carrière de fille de salle ou d'être soignante, mais pas d'infirmière, par exemple, si c'est ce que vous souhaitiez faire. Et pour beaucoup des femmes qui n'avaient pas de formation initiale, quand elles passaient à Crouy-sur-Ourcq, donc le fameux centre d'adaptation à la vie métropolitaine, elles étaient ensuite envoyées comme domestiques chez des particuliers. Donc, pour beaucoup de ces femmes ont connu les travaux ménagers, que ce soit chez des particuliers, dans les écoles, dans les hôpitaux, comme si finalement elles étaient destinées à faire ça ou que ça participait de leur choix. Réellement, le placement en emploi et la cartographie des métiers, donc des personnes qui ont travaillé pour le Bumidome, elles questionnent fortement la question du choix. Jusqu'où les personnes qui voyageaient avec le Bumidome étaient maîtresses de leur choix professionnel. Est-ce qu'elles avaient vraiment le choix, quoi ?
Selon les sources, entre 160 000 et 200 000 migrants sont venus en France métropolitaine via le Bumidome entre 1963 et 1981 pour occuper ces emplois. Alors les chiffres varient et le fait justement qu'il n'y ait pas un chiffre sur lequel tout le monde est d'accord participe au silence et au manque de documentation autour du Bumidome. Mais pour mémoire, en 1961, il y a 283 000 habitants en Guadeloupe, 292 200 en Martinique, 350 000 à La Réunion. Dans le même temps, les infrastructures aux Antilles se sont développées très lentement et le chômage est resté fort. Le gouvernement a incité au regroupement familial dans l'Hexagone, alors que les militants antillais, eux, dénoncent le Bumidome comme une tentative de casser le développement et la pensée révolutionnaire des Antilles. Pour les populations d'outre-mer, l'époque Bumidome a donc été vécue comme une forme de traumatisme.
Il y a plusieurs facteurs, je dirais. Le premier, c'est que quand même le Bumidome n'a pas fait l'objet d'une très bonne presse, que ce soit d'ailleurs en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer. Les années 60-70, c'est l'émergence des mouvements autonomistes et indépendantistes. Le Bumidome, il est un peu perçu comme le nouveau bateau négrier qui emporte les enfants du pays au loin dans une nouvelle forme de traite esclavagiste. Donc, il y a quand même tout ce vocabulaire de la traite qui revient quand on lit les écrits militants, notamment eu égard, comme je le disais, aux emplois vers lesquels étaient destinées les personnes qui partaient avec le Bumidome, hein, qui étaient vraiment dans quelque chose de l'ordre du service, voire de la servilité, quoi. Ensuite, je dirais comme du coup il n'a pas eu bonne presse, les gens n'ont pas forcément envie d'être associés à ça. Et donc ensuite, il y a vraiment aussi des gens qui ne savaient pas que l'administration ne leur payait qu'un billet, qu'un aller simple, et qui se sont sentis pris au piège, d'autant plus pris au piège quand elle n'avait pas de famille, qu'elle se sentait démunie parce qu'elle n'avait pas de ressources sociales, et qu'en plus, professionnellement, elle ne faisait pas forcément ce pour quoi elle se sentait capable, en capacité de faire, quoi.
Fort-de-France n'est pas autre chose qu'une préfecture où des Français accueillent avec enthousiasme leur président.
Dieu, comme vous êtes français! Là où est placé ce département, en plein milieu de l'océan, entre une immense Amérique, celle du Nord et celle des Latins, et une grande Europe, la Martinique est un témoin, un lien, un point d'où la France doit rayonner précisément sur l'ensemble de cet océan dont je parle. C'est un exemple à donner ici, et à partir de cet exemple, c'est une influence à exercer à partir d'ici, et ce sera une de vos tâches.
Audrey Célestine est maîtresse de conférences en sciences politiques, spécialiste en civilisation anglophone à l'Université de Lille. C'est une spécialiste et pourtant, avant ses études, elle non plus n'avait jamais entendu parler du Bumidome. Nous lui avons donc posé la question de l'impact démographique de cette politique. Qu'est-ce que ce déplacement de population, cette immigration délibérée et organisée par le gouvernement, a eu comme effet sur les Outre-mer et la France métropolitaine ?
Moi, je pense que la conséquence principale que les gens commencent à vraiment avoir en tête, c'est cette question démographique, à savoir que dans 10 ans, Martinique-Guadeloupe, c'est plus vieux que le Limousin. En gros, l'idée, c'est qu'au début du Bumidome, on menace d'explosion démographique, on dit « oulala, les gens font trop d'enfants, ça va être terrible ». Et puis en fait, la transition démographique, elle se fait beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Donc les gens arrêtent de faire des enfants beaucoup plus tôt, migrent vers l'extérieur, et en fait, tous les gens natifs de ces endroits qui font des enfants, ils les font ici. Et puis une fois qu'on a fait ses enfants ici, qu'ils ont grandi ici, qu'eux-mêmes font des enfants, bah les gens n'ont pas envie de repartir. Donc clairement, la démographie, c'est quelque chose de très inquiétant. Quand vous venez de Martinique ou de Guadeloupe, vous vous rendez compte que la population vieillit, qu'elle vieillit plutôt en plus mauvaise santé qu'ailleurs, avec des revenus plutôt moindres qu'en France hexagonale. Donc c'est un vrai problème qui va s'occuper des personnes plus âgées. Ça, c'est une vraie question. Ensuite, ça a été très structurant en termes politiques aux Antilles. Pourquoi ? Parce que, très clairement, pendant le Bumidome, il y avait vraiment cette idée qu'on a fait la départementalisation en 1946, c'est-à-dire on est sorti de la colonisation en devenant un département français, avec des promesses d'égalité économique, sociale, d'extension des droits. Et puis, en fait, ce qu'on nous propose principalement, c'est de déplacer les gens, de dire « Ah bah en fait, l'extension des droits économiques et sociaux, ça va prendre un peu du temps. Par contre, vous pouvez partir faire infirmière. » Et puis une fois que vous arrivez, « Ah bah non, c'est pas infirmière, c'est fille de salle. » Et en fait, ça a été extrêmement... ça a fait que le Bumidome a été un enjeu extrêmement conflictuel. Parce qu'on disait, bah, en gros, la seule solution à notre développement, c'est de nous faire partir de chez nous.
Et alors que des Martiniquais, Guadeloupéens et Réunionnais rejoignent l'Hexagone, des fonctionnaires blancs rejoignent les DOM pour des postes à haute responsabilité. Un chassé-croisé migratoire qu'Aimé Césaire qualifie en 1977 de « génocide de substitution ». Une expression très forte prononcée à l'Assemblée nationale par l'écrivain et député de la Martinique, qui recouvre une certaine réalité.
Il évoque à ce moment-là la nécessaire solidarité pour faire venir, pour accueillir notamment des Hmongs qui arrivaient en Guyane à cette période, et en disant, mais parallèlement, il y a toute une population qui est autrement plus dotée, autrement plus aisée, qui arrive de manière massive aux Antilles et à La Réunion. C'est une population de métropolitains qui arrivent dans ces territoires. Et alors même qu'on fait partir tout un tas de gens parce que, soi-disant, il n'y aurait pas d'emploi, on fait venir tout un tas de gens qui en fait, occupent des emplois notamment dans la fonction publique, mais pas uniquement. Et en fait, moi, je suis tombée sur ce chiffre il y a assez peu de temps. Si vous regardez cette tendance à la fois faire partir des Martiniquais et des Guadeloupéens et faire venir des métropolitains, un chiffre qui est important, c'est que dans les années 80 et 90, l'ensemble des départs ont été intégralement compensés par des arrivées de personnes venues de France métropolitaine.
Un premier bilan du Bumidome est réalisé 2 ans après la création de l'agence. On peut lire par exemple dans un rapport du Sénat.
Il convenait de considérer cette migration non pas comme une simple transplantation d'un département d'outre-mer à la métropole, mais de réaliser une intégration totale et définitive.
Sauf que cette intégration s'est révélée bien difficile et continue de l'être aujourd'hui. Arrivant en métropole, les Domiens et Domiennes se sont retrouvés isolés, loin de chez eux et surtout en proie au racisme.
Vous avez des gens qui sont partis de chez eux, qui n'ont pas été là au décès de leurs parents, qui sont revenus 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Moi-même qui rentre tous les ans, j'arrive pas à imaginer ce que ça pouvait être à l'époque. Et puis être confronté au racisme une fois qu'on arrive sur place, alors même qu'on était censé faire un simple déplacement sur le territoire national. Racisme dont le Bumidome a tout à fait conscience. Et c'est un véritable... problème et déchirement pour beaucoup de gens.
Quand je suis arrivée à notre hôtel, j'ai senti tout de suite que j'étais différente.
Malgré le fait que j'ai une carte d'identité, malgré le fait que j'ai servi dans l'armée française, que je me batte pour des valeurs françaises, on me rappelle toujours mon autre part, on me rappelle toujours mon ailleurs.
Bon, je suis née à la Guadeloupe, je suis arrivée à Paris à l'âge de 9 ans. J'ai tendance à dire je suis français, mais je suis un français noir.
C'est quoi l'identité ? C'est l'histoire, c'est la langue, c'est la culture.
Des hommes, des femmes ont été envoyés en métropole, mais aussi des enfants. En 2014, l'État a reconnu sa responsabilité morale dans l'affaire des enfants de la Creuse, qui est longtemps restée ignorée du grand public. Pour enrayer la surnatalité dans les DOM, plus de 2000 mineurs réunionnais ont été séparés de leurs parents et répartis dans l'Hexagone par le Bumidome, selon une commission de recherche historique présidée par le sociologue Philippe Vital. Certains d'entre eux ont été adoptés, d'autres placés en foyer pour aider aux travaux des champs ou dans l'entreprise familiale.
Alors non, le Bumidome n'a pas vraiment apporté de leçons. Je pense que ça, c'est une des leçons qu'on peut, qu'on peut tirer. À partir de la suppression du Bumidome, ça a été remplacé par une agence qui s'appelait l'ANT, l'Agence Nationale des Travailleurs d'Outre-mer, qui, elle, en gros, l'idée, c'était d'arrêter d'encourager à la migration. Et de fait, on observe une sorte de baisse des venues, et avec l'idée que maintenant, il faut que les gens soient dans... Il faut qu'on soit dans l'insertion socioculturelle. Donc voilà, montrer votre culture aux gens, montrer à quel point le vivre ensemble, c'est bien.
On fait des plats
On fait des plats du pays, et puis des danses folkloriques, etc. Et puis il y a plein de financements pour les associations pour faire... c'est le développement de ce qu'on appelle de manière un peu caricaturale et pas très sympa, le balacra boudin. Donc les associations comme ça un peu caricaturales, mais qui sont en fait quand même des lieux de sociabilité importants. Donc moi, je pense qu'il faut être pas trop sévère avec ces associations. Mais en fait, l'Agence nationale des travailleurs d'outre-mer, elle incite malgré tout les gens à se déplacer pour des actions de formation. Donc l'idée, c'est que le salut est toujours à l'extérieur. L'idée, c'est que il faut quand même partir pour se former parce que l'enseignement supérieur n'est pas assez développé sur place, parce qu'il n'y a pas toutes les formations, etc. Et du coup, il y a tout ça qui se fait. Et en fait, l'ANT est remplacé par l'ADOM, qui est l'agence qui existe aujourd'hui, avec là encore la mise en place d'un passeport mobilité qui facilite les déplacements, qui facilite le fait de partir pour des études, etc. Du coup, l'aspiration au départ, elle reste relativement forte, avec des raisons qui sont... Enfin voilà, moi à 18 ans, j'avais très envie de partir parce que grandir sur une petite île, on a envie d'aller voir ailleurs, mais avec malgré tout des possibilités de retour qui sont d'une part limitées et qui sont extrêmement sélectives. En gros, revenir sans diplôme aux Antilles, c'est être sûr de ne pas trouver d'emploi. Il y a une vraie sélection au retour aujourd'hui. Ça a prolongé les réalités fracturées.
Selon le dernier recensement disponible qui date de 2008, plus de 360 000 personnes nées dans un département d'outre-mer vivent dans l'Hexagone. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cinquième DOM, après la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion. Outre l'impact démographique, le Bumidome a laissé des traces économiques et humaines. Cette politique, comme toutes celles qui ont suivi, ne s'est pas accompagnée d'un développement économique des DOM et le chômage ainsi que les inégalités sont loin d'être enrayés. Par ailleurs, les jeunes nés dans les DOM continuent de rêver de la métropole comme si leur salut se trouvait ailleurs et non sur leur île. Ce rêve français montre bien à quel point aujourd'hui encore, les territoires d'outre-mer continuent d'être biberonnés par l'Hexagone et ne sont pas considérés comme des départements à part entière, mais comme des territoires entièrement à part.
Alors, on vous recommande la lecture de la BD « Pays à nous » de Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau, publiée aux éditions Steinkiss, un travail qui a été récompensé par le prix de la BD politique France Culture. L'universitaire Audrey Célestine, que nous avons interviewée, est l'invitée d'un épisode du podcast « Kif Taras », animé par Grace Lee et Rokaya Diallo. L'épisode s'intitule « Le mythe des Français et Françaises de souche », tout un programme. Nous vous conseillons également de voir la mini-série de 2018 « Le rêve français » avec Yann Gaël et Aïssa Maïga, qui raconte l'immigration par le prisme de leurs deux personnages. Merci à Jessica Oublié et Audrey Célestine pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.